Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale Repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Je suis Nicolas Ducharme, heureux d'être avec vous aujourd'hui avec Sébastien Deschambault. Salut Sébastien, merci d'être là, tous les deux membres de l'équipe d'LNH.com. Sébastien, une émission spéciale qu'on filme ici du côté de Buffalo, KeyBank Center. C'est la séance d'évaluation des espoirs de la Ligue nationale qui se déroule. En ce moment, on a eu le plaisir de rencontrer les meilleurs espoirs de la Ligue. On a parlé au Gavin McKenna, Ivar Stenberg, tout ça. Il y a les tests physiques. C'est vraiment la grande messe avant la grande messe présentement.
Exact. Les 32 équipes sont ici, leurs équipes de dépisteurs, les directeurs généraux, les présidents d'opérations hockey. Donc, tout le monde est là, tout le monde rencontre les principaux espoirs.
90 environ là, dans ce coin-là.
Donc, des entrevues, des tests physiques, tout ce que... Les derniers préparatifs pour peaufiner les listes qui sont déjà bien avancées, évidemment, à ce moment-ci de la saison, en quelques semaines de pêchage. Mais bon, un contact particulier, mettre les espoirs à l'épreuve au niveau autant des tests physiques que des entrevues, des questions un peu corsées, des fois un petit peu moins. Chaque équipe a ses particularités.
Ouais. Donc,
Un classique, c'est rendu, ça a beaucoup évolué au fil des ans. Maintenant, bon, c'est la formule a été prouvée, surtout ici à Buffalo, a eu une installation exceptionnelle là, pour tenir un événement.
Ouais, on nous a même prêté le vestiaire des Bandits, l'équipe de crosse ici au KeyBank Center. Et les espoirs, justement, ont défilé ici. Là, on les a tous rencontrés. Les postes principaux, là, puis c'est des textes que les gens vont pouvoir lire sur LNH.com. Mais bon, aujourd'hui à l'émission, pour en apprendre un peu plus sur ces espoirs-là, on va recevoir Jean-François Danfous, qui est dépisteur pour le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Donc, lui couvre, oui, le Québec, les Maritimes, mais se déplace un peu partout aussi parce que il va l'expliquer, j'en suis certain, la centrale, on fait des évaluations croisées. Donc, on va vraiment, oui, Jean-François a évalué les espoirs du côté du Québec. Un autre dépisteur vient, on compare les choses, puis à ce moment-là, on produit deux listes. La liste des meilleurs espoirs nord-américains, la liste des espoirs internationaux. Donc, Jean-François va venir vous parler de ça. Ensuite, on va parler de débat. C'est quoi les grandes questions qui retiennent l'attention à l'aube du repêchage? On va parler de tout ça aujourd'hui. On va peut-être se chicaner un petit peu, je sais pas. Mais vraiment, on met la table pour ce repêchage qui va se tenir les 26 et 27 juin, ici même à Buffalo. Donc, le grand moment pour plusieurs de ses espoirs. Donc, on y va. On l'accueille avec nous, Jean-François Danfous. On lance l'émission. On l'accueille avec nous, Jean-François Danfous, dépisteur au Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Salut, JF.
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Merci encore d'être avec nous pour cet épisode. Parle-moi un peu, pour ceux qui justement n'ont jamais écouté d'épisode, parle-moi un peu de ton rôle, ce que tu fais, ce que le Bureau central fait aussi au niveau de l'évaluation des espoirs.
Bien, principalement, le Bureau de la centrale, on est au service des 32 équipes. Donc, les 32 équipes nous donnent un mandat, si tu veux. Ça fait qu'on fait des listes, on organise le combine, on fait les poids, les grandeurs des joueurs au mois de septembre. Il y a une variété de choses qu'on fait pour les équipes. Mais à la base, bien, c'est ça, je suis dépisteur, je couvre le Québec et Maritimes principalement. Mais la centrale, on est quoi, 7 en Amérique du Nord. On couvre tous les territoires, donc on fait tous du crossover. Donc, c'est le fun. J'ai l'opportunité de voir toutes les ligues en Amérique du Nord, ce qui rend les choses intéressantes. Puis, j'aime beaucoup ça. Honnêtement, c'est un job, ça va faire 8 ans que je fais ça. Puis, j'adore ce que je fais, puis j'espère le faire encore un autre 20 ans.
Ça a l'air de quoi une saison typique pour les dépisteurs du Bureau central? Ça commence, votre travail commence à partir de quand? Puis là, présentement, là, on t'a regardé cette semaine, là, ta job est faite, là, rendu au mois de juin là, à Buffalo.
Exactement. Une des premières choses qu'on fait à la fin août, début septembre, dans les camps d'entraînement de toutes les ligues, si tu veux, on fait le poids et les grandeurs des joueurs. Donc, moi, je me prends un peu partout au Québec maritime avec nos appareils pour mesurer. Évidemment, c'est plus que des tapes comme dans le temps, mais... c'est ça. Les équipes veulent savoir exactement. Ils ne veulent pas la mesure sur les sites Internet que leur mère a faite sur un cadre de porte. Ils veulent savoir la mesure exacte pour voir où ils sont rendus dans leur développement. Donc, on fait ça au mois d'août, septembre. On fait la tournée de toutes les équipes, chacun dans notre territoire. Puis, par après, ben, c'est ça. On commence, quand la saison régulière commence, on identifie sur notre territoire. Donc, moi, je me promène surtout dans la LHGMQ pour identifier les joueurs qui sont à surveiller pour les prochains mois. Puis c'est à partir de là que le crossover se fait. Donc, quand les dépisteurs de mon équipe viennent sur mon territoire, mais c'est beaucoup pour valider un peu les joueurs que j'ai identifiés. Donc, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Je pense qu'on apporte un service de haut niveau aux équipes. Je pense que c'est apprécié. Mais il y a beaucoup de travail de fait derrière ça. Beaucoup de millage sur les routes, beaucoup d'hôtels. On fait attention aux hot dogs. Ouais.
Tu as dit que tu étais au gym un matin.
Fais attention. Ben, si tu veux pas, ça peut déraper vite.
On confirme.
Oui, c'est ça. Parce que nous, on ne court pas les arénas, mais surtout un ancien athlète comme toi.
C'est
ça. Pour ceux qui se souviennent, tu as joué au Play Devils.
Un choix de première ronde, d'ailleurs.
Donc, une question qu'on se pose, la cuvée en général cette année, ça ressemble à quoi au niveau calibre si on compare aux dernières années?
Très bonne cuvée, surtout en première ronde, je trouve qu'il y a quand même une belle qualité, beaucoup de bons défenseurs, quelques joueurs de centre de haut niveau dans le top 10, mais en général, je trouve que c'est une belle cuvée. Peu importe ce que tu recherches, tu recherches un joueur avec des qualités offensives, tu regardes-tu pour un défenseur physique, tu regardes-tu pour un plus petit gabarit qui va s'occuper de ton avantage numérique dans les prochaines années. Je pense qu'il y a une variété, ce qui rend la chose intéressante pour le repêchage.
Est-ce que c'est le repêchage de Gavin McKenna depuis des années, depuis qu'il débarquait comme joueur exceptionnel là, dans la Ligue junior canadienne? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gavin McKenna?
Ben, je veux dire, c'est un talent brut. Je pense qu'il y a eu pas un petit peu de négativité, mais il y a eu des points d'interrogation envers lui en début de saison. L'adaptation était peut-être un petit peu plus lente dans les collèges américains. Mais il ne faut pas oublier que ce jeune-là est un joueur de talent exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a accompli les dernières années dans la Ligue de l'Ouest? C'était de quoi avoir. Là. Tu sais, je l'avais vu comme un underage à la Coupe Memorial à Rimouski. Tu pouvais voir son talent de niveau exceptionnel. Donc, la rapidité de ses mains, son anticipation, sa lecture du jeu, les choses qu'il peut faire avec la rondelle, soit en avantage numérique ou 5 contre 5 dans la zone offensive, c'est un surdoué. Puis son adaptation s'est faite par la suite, je te dirais surtout en deuxième moitié, à Penn State, devenu un joueur beaucoup plus d'impact, contribué beaucoup plus offensivement. Donc, en général, je pense qu'il faut faire attention. Les joueurs exceptionnels, des fois, qui sont des dates de naissance late, il y a un petit peu de négativité qui vient au repêchage parce que les attentes deviennent quasiment impossibles à atteindre. Tu sais, ce qu'il avait joué dans la Ligue de l'Ouest, combien de points qu'il aurait eu? Mm-hmm. 200 points?
Dirais-tu que c'est des joueurs que ça fait tellement longtemps qu'on les scrute que on a fait le tour de ce qu'ils font bien, puis on a le temps de s'attarder à ce qu'ils font de moins bien, puis d'être pointilleux ce détail, ce qui n'est pas nécessairement juste dans leur cas.
Exactement. Non, je suis d'accord avec ça. Tu viens au point où ce que tu regardes le match, pas pour trouver des choses positives, mais tu essaies de choisir des éléments qui sont à améliorer. Puis c'est là que le négatif vient de ce côté-là. Mais tous les joueurs ont des choses à améliorer. Mais dans son cas, lui, son côté offensif, son intelligence, ses talents de fabricateur de jeu sont tellement au niveau élevé que je pense que l'impact de la Ligue nationale va être très intéressant.
Quand on lui a parlé, Gavin, il a reconnu que sa première moitié de saison, ça avait été difficile. Pas seulement sur la glace, mais mentalement. Il a parti en force, puis je ne sais pas si soudainement, il s'est mis à juste coaster, là, mais un peu comme pas avoir réalisé ce qu'il devait faire au niveau NCAA pour connaître du succès. Mentalement, ça a l'air aussi, il y a eu des difficultés. Mais parce qu'on voit là, au travers les listes, puis à des endroits, il s'est fait descendre, puis tout ça. Mais c'est seulement 2 mois même de négatif. Sa deuxième partie de saison, c'est incroyable, ce qu'il a fait offensivement, puis tout ça. Quand vous l'évaluez, justement, vous n'avez pas le choix d'évaluer sur la totale et non pas sur ce petit échantillon-là qui a été plus difficile.
100%. Quand tu regardes n'importe quel espoir, il faut que tu regardes l'ensemble de son jeu. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans la vie d'un jeune non plus. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je sais pas, on ne parle pas de Gavin dans ce cas-là, mais n'importe quel espoir, tu veux le voir un certain mois de janvier, puis il y a une période difficile. on ne sait pas. Il est peut-être malade. Il y a peut-être de quoi qui est arrivé à sa pension. Il y a peut-être un décès dans sa famille. Tu sais, faut toujours faire attention puis creuser un petit peu.
C'est pas tout exposé comme Matthew Schaefer.
Exactement. Savait, Matthew, exactement. Passait, là. Exactement. Faut faire attention à certaines choses. L'autre élément pour Gavin, c'est la NCAA est rendue une ligue très, très forte. Là. Tu sais, veux pas tous les joueurs de la Ligue canadienne qui traversent. La Ligue devient de plus en plus mature. Tu as des joueurs qui ont dominé la Ligue canadienne, des marqueurs de 40-50 buts qui aboutissent dans cette Ligue-là. Ça fait qu'à la fin de la journée, c'est une transition qui s'en vient de plus en plus difficile à faire pour un joueur que c'est son année de repêchage. J'ai trouvé qu'il s'est adapté, qu'il a très, très bien fait ça. Puis, tu sais, c'est comme les autres espoirs. Il va continuer à devenir plus fort, plus rapide, s'impliquer plus physiquement. Tu sais, il y a des éléments qui vont s'améliorer avec le temps. Mais faut pas négliger tout le talent qu'il amène sur la table.
Qu'est-ce qui se faisait reprocher? J'ai lu sens de la compétitivité, ça allait au filet. Il joue pas une game à la David McKinnon, c'est une game qui est différente un peu. Tu le compares à qui? Puis justement, ce qu'il fait pas, penses-tu que il peut se mettre à le faire au niveau supérieur?
Je pense que oui, c'est tout le temps les attentes. Tu peux-tu transformer Patrick Kane dans un power forward? Non, Patrick Kane amène des éléments qu'un power forward ne peut pas amener. Ils ont une créativité, une rapidité de main. Je pense que Gavin fait partie de cette catégorie-là où c'est un game breaker. Il peut changer un match avec son intelligence, la façon qu'il peut fabriquer un jeu pour un coéquipier, son anticipation d'avantage numérique. Il va trouver des lignes de passe que personne d'autre peut trouver. Donc, tu sais, oui, il va améliorer certains autres éléments, mais il ne faut pas s'attendre qu'il va devenir un power forward non plus.
Tu décris, j'entends Nikita Kucherov.
Ouais, Kucherov, ouais. Patrick Kane, des gars surdoués du côté cérébral, où ce qu'ils font pas nécessairement avec leurs épaules, mais avec leurs mains, avec la façon qu'ils peuvent gérer une rondelle. Donc, c'est pas tous les joueurs qui fitent les certaines catégories qui vont cocher. Ils vont pas toutes cocher les boîtes possibles, mais les boîtes que lui coche sont élites, puis pas à peu près. Donc, faut en prendre puis en laisser dans certains cas.
Il y a un nom qui a monté dans les classements, Ivar Stenberg, meilleur espoir européen sur votre liste, international, je vois dire, maintenant, parce qu'on est des citoyens du monde. Est-ce qu'il y aurait eu débat entre Stenberg et McKenna si vous aviez à faire une liste commune?
Je peux pas parler pour l'ensemble de notre personnel de la centrale. mon opinion personnelle, c'est que je pense qu'il y aurait peut-être un débat. Le problème, c'est que j'ai pas eu beaucoup. Ben, j'ai vu à la télévision un peu comme tout le monde l'impact qu'il pouvait avoir. Je l'ai vu au championnat mondial junior. À la fin de l'année, j'ai écouté une coupe de match championnat senior. Donc, tu peux voir ses qualités sont quand même très impressionnantes. Il peut jouer dans toutes les facettes du jeu, s'implique physiquement, va au filet. Tout ce qui est rapidité des mains, il l'a. Il peut marquer des buts, peut fabriquer des jeux. Donc, c'est un joueur complet. Je pense qu'il y aurait probablement un débat, mais c'est quand même deux différents joueurs dans le sens les équipes auront le choix de choisir lequel qu'ils veulent. Mais j'aurais quand même McKenna en avant à ce moment-ci.
Tu l'as dit, c'est deux joueurs qui sont différents, mais même si, bon, on a dit, la NCAA devient de plus en plus compétitive, les joueurs sont quand même plus vieux un peu que dans le junior canadien, mais Stenberg a joué contre des hommes, puis il a même joué contre des hommes de la Ligue nationale de hockey au championnat du monde. Est-ce que ça peut avoir un impact un petit peu sur la projection qu'on peut faire d'un joueur?
Ça me rappelle Juraj Slafkovský, qui avait son année, les Olympiques, le championnat du monde. Il était under it, il va falloir traduire ce terme-là à un moment donné pour nous autres. Mais est-ce que justement, jouer dans la SHL, ça lui donne un avantage par rapport à l'ancien?
Je sais pas si c'est un gros avantage, mais n'importe quand tu peux jouer à un niveau que tu peux jouer avec des hommes puis avoir un impact immédiat, c'est sûr que ça peut convaincre les équipes qu'il y a moins de doutes dans ta projection. Là. C'est sûr, un joueur qui aurait joué juste du hockey junior, qui n'a jamais joué dans les événements internationaux, des fois, tu as une projection peut-être un peu plus risquée, si tu veux. Mm-hmm. Dans le cas Stenberg, il le fait à tous les niveaux, incluant avec les joueurs beaucoup plus vieux, des joueurs, comme tu dis, qui ont joué déjà dans la Ligue nationale. Donc, évidemment, je pense que ça aide les équipes à faire une projection, puis ça peut pas nuire certains.
tu as glissé un mot en début, en ouverture de podcast sur le groupe de défenseurs. Il y a un contingent assez impressionnant de défenseurs en Amérique du Nord, entre autres. Là, il y en a, disons, quatre qui sortent un peu du lot. Chase Reed, Keaton Veroff, Carson Carls et puis Daxon Rudolph. C'est quatre défenseurs impressionnants, mais qui ont tous des profils un peu différents. Donc, les équipes ont un peu le choix du type peut-être de défenseur qui manque à leur organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces quatre arrières-là?
Bien, comme tu dis, c'est quatre défenseurs que je pense auront un impact Ligue nationale. Les quatre jouent quand même un jeu différent. Dans le cas de Reed, je te dis pas que c'est le prochain Schaefer, mais il apporte des éléments qui sont très intrigants dans le sens qu'il contrôle le jeu, maniement de la rondelle, défend très, très bien, up and down la glace. Il était vraiment impressionnant, incluant au championnat mondial junior qui est arrivé là. Puis on dirait qu'il a comme commencé comme un 5-6 dans l'organisation, dans l'équipe, puis il a fini qui était sur l'avantage numérique, jouait des grosses minutes pour l'équipe américaine. Donc, du début à la fin, c'est amélioré. Un gabarit intéressant qui peut patiner très, très bien. Donc, sa projection est quand même intéressante. Sur le regard de côté physique, il y a encore beaucoup de développement à faire. Donc, son plafond peut être très, très haut. Verhoeff, il a décidé de faire le saut au collège américain. C'est très, très bien adapté. Quelqu'un qui avait eu une saison 16 ans dans la Ligue de l'Ouest, production très impressionnante, pouvait contribuer dans toutes les façons du jeu. Bon patin, bonne mobilité, peut défendre très, très bien dans sa zone. Je te dirais côté transport de rondelles, côté avantage numérique, il peut le faire. Il a pu le faire au niveau collégial cette année, qui rend la chose intéressante. J'aurais aimé le voir dans la Ligue de l'Ouest cette année avec...
C'en est un, on parlait de McKenna, lui aussi, le saut à l'NCAA, on a vu que c'est une bonne coche.
Il y a une coche, c'est sûr, surtout côté défenseur. Mm-hmm. Il y a toute une adaptation de plus. Mais il l'a bien fait, mais j'aurais aimé le voir dominer, voir quel genre de dominance il aurait pu avoir dans la Ligue de l'Ouest. Parce que je pense qu'on ne lui donne pas crédit peut-être assez pour tout ce qui est son jeu avec la rondelle. Parce qu'il a fait le saut cette année, c'est bien adapté. Mais ça aurait été le fun de le voir une autre année dans la Ligue de l'Ouest, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Dans le cas de Carls, complet, peut faire un peu tout sur la glace, s'impliquer physiquement, peut contribuer offensivement. Un genre de two-way que tu veux dans ton équipe, que je pense que tous les coachs de la Ligue nationale aimeraient avoir dans leur alignement. Ça m'envoie un petit côté leadership un petit peu qui apporte dans son équipe. Donc, c'est le typique joueur que les 32 coachs de la Ligue nationale aimeraient avoir.
Et son préféré de Nick, parce qu'il a grandi sur une ferme.
Oui, ouais, c'est les meilleurs, ça.
C'est ça, Nick a grandi sur une ferme à Saint-Pie.
Farm toughness qu'on a.
Exact.
Je pense à Billy Martin, justement, l'année dernière. Ouais. Il était...
Alexis Bernier.
Alexis Bernier, il y en a plusieurs. Maverick Book. Ouais. c'est niaiseux, je le sais. Toi, tu n'as pas été élevé sur une ferme.
Ouais. Non.
Ça vient avec des valeurs, puis le vide du foin, en tout cas. Et bien, avec le foin, là, ça te forme un. Quand tu as 6 ans, ça te forme un jeune. Mais bon.
Mais ça parlait, tous les coachs aimeraient ça l'avoir. Je pense que pas beaucoup de joueurs qui aiment l'affronter dans un coin de.
Non, exactement. Exactement. C'est comme on a dit, c'est un typique joueur où est-ce que tu fais un sondage, puis tu dirais les 32 entraîneurs-chefs aimeraient avoir un défenseur comme ça. C'est-tu un goalie? C'est-tu un. Tu sais, je sais pas, j'ai de la misère à mettre un comparable, mais c'est un joueur qui va contribuer dans toutes les facettes du jeu.
Dona?
Peut-être un gars comme ça. Mais patine bien, exécute bien avec la rondelle, peut contribuer offensivement. Comme j'ai dit, c'est peut-être le défenseur dans les quatre qui est le plus physique, qui apporte ce petit côté de papier sablé. Le
plus près NHL?
Peut-être. Ouais. Côté physique, je dirais oui. Mais côté défenseur, je tu sais, Schaefer, c'est une saison exceptionnelle qu'il a eu. C'est pas facile comme défenseur de le faire.
Il s'en va jouer avec son chum en plus, le NCAA. Il s'en va jouer avec Keaton Veroff l'année prochaine.
Exact. Je pense qu'il y aura une belle transition au niveau collégial. Mais ouais, un joueur de haut niveau. On a-tu oublié un?
Oui, Daxon Rudolph.
Rudolph, un marqueur de but. Dans les quatre, c'est probablement lui que l'instinct de marqueur. C'est-tu comme un Jakim Chuck qui avait sorti tour à Ottawa? Un joueur avantage numérique ou même 55 peut marquer des buts d'une certaine distance. Tout le temps, la façon de trouver une ligne de lancer utilise bien ces joueurs qui vont faire le travail devant le filet, mais il y a tout le temps le timing de trouver une ligne de lancer, un gabarit intéressant lui aussi, patine bien, bonne mobilité. Je te dirais que la chose qui le démarque, c'est il peut marquer des buts. C'est quelqu'un qui sera sur ton avantage numérique, mais qui va trouver des façons à 5 contre 5 aussi de générer des buts. Je pense qu'au-dessus de 30 buts cette année qu'il a marqué.
Il a battu le record d'équipe de Josh Morrissey. Je pense qu'il était de 28 buts. Donc, selon moi, oui, il l'a battu. Ouais. Puis, il est terminé premier pointeur de la Ligue de l'Ouest en série. Pas parmi les défenseurs. Il a été premier pointeur des séries et c'est un défenseur.
Très impressionnant.
C'est une belle carte de visite pour finir l'année. On vient d'en parler de 4 défenseurs nord-américains, mais il y en a un intriguant de l'autre côté de l'océan, Albert Smith, qui a eu une année, qui a joué aux Olympiques, qui a joué senior, qui a joué... À quel point dans vos discussions est-ce que Smith retient l'attention? Parce qu'il y en a qui le voient peut-être top 3 là même. Là.
Non, absolument. Quand j'entendais parler nos dépisteurs côté international, ils disaient même que je dis pas qu'il sortirait numéro un, mais c'est un joueur qui est très intriguant parce qu'il a fait le saut rapidement, il a joué contre des hommes, il s'est bien adapté, il a eu un impact dans chaque équipe qu'il a joué. Un autre qui peut s'impliquer physiquement, qui peut jouer un jeu solide dans les trois zones. Donc, ça fait de lui, on a parlé tantôt, la projection est peut-être un peu plus facile avec lui, tu peux dire assez facilement que dans les prochaines années, pour être un joueur qui va contribuer dans ton alignement au niveau Ligue nationale. Je l'ai côtoyé un petit peu ici au Combine, quand même un jeune sérieux qui est sa job.
Taciturne un peu, mais qui ne manque pas de confiance
c'est
en
ça,
lui.
C'est un pro, je pense qu'il a confiance en ses habiletés.
Ça, puis... Je voulais le complimenter et dire qu'il lui rappelle de mauvais decider. Sa réponse?
J'en ai pas vraiment entendu parler. C'est que les comparaisons ne semblent pas vraiment l'atteindre. Ouais, je ne suis pas un autre. Il a joué en Allemagne en plus, donc je suis sûr qu'il y en a qui en ont parlé. Exact. Ben, il en a entendu parler, mais je pense qu'il ne s'attarde pas à ces comparaisons-là. Même si la comparaison avec Moritz Seider est peut-être, tu vas peut-être tenir la route. Là. Ça a été un peu une surprise, Moritz Seider, puis il y a eu un impact presque immédiat avec les Red Wings.
Il ne s'était pas trompé. Là. Donc, ça a surpris tout le monde, mais.
Ouais.
Visiblement, les dépisteurs des Red Wings ont eu raison.
Je ne sais pas si Albert Smith va avoir un nœud papillon, lui aussi. C'était très beau, son nœud papillon à Moritz Seider.
Ben écoute, je regardais. Avec maintenant, il n'y a plus de cas de paiement dans la ligue. Là. Mais il a l'air sérieux. Il a l'air. On verra bien l'avenir. C'est une cuvée, on en a parlé, des deux des favoris, McInnes, Tabers, des alliés. C'est pas une grosse cuvée pour les joueurs de ça. Tu as Callum Ultra. Puis t'as Tynan Lawrence qui, du moins en Amérique du Nord, sont les deux favoris. Est-ce qu'un des deux pourrait être choisi peut-être plus tôt? Parce qu'on sait, les équipes aiment choisir des centres, des défenseurs. Si tu vois qu'il y a une possibilité de prendre un centre numéro un, tu sautes dessus avec un allié des fois. Mm-hmm. Est-ce qu'un des deux pourrait surprendre puis être repêché plus tôt?
Absolument. Les deux, c'est des joueurs de haut niveau. Malhotra a eu une saison exceptionnelle. Tu as fait la transition, t'es arrivé dans la Ligue de l'Ontario... Puis on dirait dès le début, tu pouvais voir qu'il était sa job. Là. Il est arrivé le genre de joueur de centre qui peut te gagner des mises en jeu importantes, peut contribuer à un avantage numérique, peut tuer des punitions. Je le trouve excellent avec la rondelle, position de rondelle, autant rapidité nord-sud que est-ouest. Je l'ai trouvé excellent. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'il sorte un peu plus tôt qu'on le pense, dû à la position. Ouais. T'sais, des joueurs de centre, des défenseurs numéro un sont tout le temps difficiles à trouver. Donc, dans son cas à lui, je ne serais vraiment pas surpris que ça sorte plus tôt que prévu. Dans le cas de Lawrence, un peu pour les mêmes raisons, c'est un type de joueur qui pourra contribuer à n'importe quelle facette du jeu. Je ne dis pas que c'est Celebrini, dans le sens que Celebrini a une saison exceptionnelle à San Jose, puis c'est dur à mettre des comparables comme ça, mais Lawrence, c'est ce genre de moteur-là où il est tout le temps actif, tout le temps sa rondelle en échec avant, tout le temps le premier dans sa zone, supporte la rondelle dans le bas de la zone. Il y a des beaux détails dans son jeu. C'en est un qui a fait le saut collège américain à la mi-saison, qui est vraiment difficile à faire. C'était une adaptation un peu plus lente. Puis un peu comme on en parle des fois, c'est qu'on est critique avec des courtes périodes de temps. Mais dans son cas à lui, il ne faut pas oublier, il était MVP dans la Ligue USHL l'année passée comme joueur de 16 ans. Puis à ma mémoire, je pense qu'il y a juste Fantilli puis Celebrini qui avaient réussi à être MVP d'une ligue. Fait que c'est quelqu'un que si qui avait joué USHL aurait connu une saison. Tu sais, côté statistique, ça aurait été très, très solide.
Il était blessé aussi.
Oui, en début de
saison. Il était blessé au début de l'année. Ça a été plus difficile à partir par après. Fait l'adaptation au collège américain, rentré à BU. Tu sais, t'as toute l'adaptation. Nouvel environnement. Tu t'en vas étudier à l'université. T'as le niveau de jeu qui est super élevé. Puis en plus, les joueurs ont eu une adaptation depuis le mois de septembre à se rendre où ce qui était rendu. Donc, mais tu pouvais voir dans les derniers matchs qu'il a joué, il était rendu un des meilleurs joueurs de son équipe.
Ouais, ben, j'ai parlé de son entraîneur, j'ai parlé de Nofou, mais c'était probablement le meilleur attaquant de l'équipe jusqu'au mois de hockey East, là, dans le fond. Ouais. Ça n'a pas été une grosse année pour BU, là, même si on avait Hudson, on avait Cole Iserman aussi. Mais donc, c'est le retour. D'ailleurs, Malhotra et Lawrence s'en vont à BU. C'est deux joueurs qui ont un profil relativement similaire, deux centres. J'avais demandé, avez-vous le temps de le côtoyer? J'ai parlé pas tant que ça. Donc, il va peut-être avoir une petite rivalité, les deux vont se pousser parce que tu veux être le premier centre. Puis là, soudainement, puis là, BU,
on a une belle équipe.
Plein de joueurs cette année, Xavier Villeneuve. on a parlé de Stenberg. Il y en a un autre joueur de centre. Là, on a parlé des deux Nord-Américains. Figo Bia. C'est un joueur de centre qui a pris, lui aussi, qui a gagné dans les rangs cette année. Que lui aussi, comme Stenberg, on dirait que quand tu es ensemble sur la scène internationale, ça fonctionne, les deux ensemble et tout ça. Est-ce que une performance comme lui tardive, est-ce que ça peut l'aider puis avec l'année? Est-ce que Bjork peut venir brouiller les cartes avec les deux autres?
Je ne sais pas avec les deux autres. 100% que ça va l'aider, sa fin de saison. Pas juste le tournoi final qui vient de jouer, mais sa deuxième moitié a été excellente. Sa production a été impressionnante aussi. De ce que j'entends de notre personnel du côté international, c'est un joueur qui continue à grandir et évoluer du début à la fin. Puis ça fait de lui un joueur quand même intriguant côté... Tu sais, on parle tout le temps de plafond. Qu'est-ce qui est le plafond qu'un joueur peut atteindre? Puis je le regardais justement ce matin durant les tests. Tu peux voir qu'il a déjà visité un gym. Ça a l'air bien bâti, des bonnes jambes. Tu peux voir qu'il y a une bonne stabilité sur ses patins. Puis il a de l'air sur la job. Là. Il est ici pour impressionner. Puis je serais pas surpris qu'il sorte un peu plus haut qu'on pense.
As-tu vu qui l'a encensé au championnat du monde?
Non.
C'est Nick Crosby.
Ah.
Vous irez voir les images puisqu'il s'est passé. Il est en train de donner une entrevue à la télé suisse, à la télé suédoise. Fini l'entrevue, se retourne. Qui est là pour attendre pour la prochaine entrevue? C'est Nick Crosby. Puis il s'est retourné, est-ce que je peux avoir ton bâton? Ils ont osé demander. Crosby dit, écoute, le championnat commence, là, j'en ai pas une tonne de bâton, je t'arrange de quoi. Puis il nous a envoyé la photo. Crosby lui a envoyé, le bâton autographié, puis tout ça. Mais après ça, devant la caméra, Crosby a vraiment l'encensé, ce qu'il fait à son âge, puis tout ça, c'est pas. Puis j'ai demandé à lui, ça t'a fait quoi d'ailleurs? Sa réponse a été, il est drôle, honnêtement, il est beaucoup plus drôle que Stenberg, là, quand on s'est rencontré. Il dit, ouais, mais il était pas pour dire comme de la merde sur moi, il était à TV, il était pas pour dire. Ouais, mais des fois, prends les commentaires, puis tu es allé pour toi, là, ça fait du bien.
T'as parlé d'inséparable, au profil complètement différent. Stenberg est un gars très, très calme, très posé, très, très réservé. Viggo Bjork est un petit peu plus exubérant.
Un peu différent. Mais semble-t-il, là, les gens qui sont en Europe, là, ça tente à gagner Eurovision.
On
c'est
une
chanteuse du côté de la Suède, très connue, gagner Eurovision.
Gros scoop.
Nous, ben, c'est en 1999. Mais j'ai demandé, puis il m'expliquait, tu sais, t'as quand même il peut parler un peu de la pression, un peu de la réalité, les projecteurs, puis tout ça. On est connu un peu, donc.
Jeff était avec nous il y a une semaine, une dizaine de jours pour notre balado sur la cuvée québécoise.
J'aime comment tu fais semblant qu'on n'est pas en train d'enregistrer ça un après
l'autre. Je sais, mais écoute, on n'est pas diffusé en même temps.
C'est un balado qui a été diffusé il y a 10 jours, là, mais on s'entend qu'on est à la auto-combine.
C'est ça. Donc, on a parlé il y a 30 minutes, mais les gens l'ont su il y a une dizaine de jours. On a parlé de la cuvée québécoise et de la cuvée de la LGMQ. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, d'entendre ta magnifique performance de cet autre balado, qu'on invite les gens à l'écouter d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les principaux espoirs québécois, les principaux espoirs de la LGMQ? Qui va sortir là, dans les premières rondes? Ça?
Je pense qu'il y a des noms intéressants, commençant par Maddox Dagenais, qu'on a le premier sur notre liste de la centrale. Un joueur intéressant, gros gabarit, 6 et 4. Il m'a dit qu'il a grandi. On va le mesurer samedi matin. On va voir ce qu'il est rendu à 6 et 4 et demi. Mais quelqu'un qui peut marquer des buts, peut fabriquer des jeux. Puis c'est ça, son côté physique s'est quand même développé cette année. J'ai trouvé son implication physique s'est améliorée. Donc, il amène une couche de plus, un élément de plus à son arsenal. Donc, ça rend les choses intéressantes. T'as un Tommy Blair, un patineur quasiment à la Phil Housley ou à la Paul Coffey, où est-ce que c'est beau patineur, c'est fluide.
Bien, c'est, ouais, c'est ça.
Une des belles comparaisons.
Dans toutes les directions, autant rapidité que son edge work qu'on appelle avec ses pieds, c'est excellent. Beaucoup amélioré avec la rondelle, production, tu sais, il a brisé des records de ligue cette année en tant que recrue. Défenseur que je considère peut-être comme un Brock Faber à Minnesota. Quelqu'un éventuellement qui va contribuer dans tous les scénarios. Oui, la production offensive est intéressante, mais son côté défensif aussi, la façon qu'il peut jouer, c'est un contre un, très intéressant.
Tu peux regarder plus loin que son nombre de points. Là.
Exact.
Il y a vraiment plus à voir sur... Puis lui est arrivé comme joueur autonome cette année. Là. C'est un... Sans dire qu'il est sorti de nulle part, vraiment, là, lui, il allait dans la NCAA à la base. Puis là,
exact.
Il va jouer même une deuxième année, là, qu'il m'a dit, du côté de Moncton. Donc, il va faire quelques flamèches l'année prochaine dans les LGMQ.
Exact.
Il y a Xavier Villeneuve, un autre défenseur qui est capable de faire des points.
Xavier Villeneuve, un autre... tu sais, on le compare à la Hudson un petit peu. Très dynamique, bon avec la rondelle. Peut gérer un avantage numérique aussi bien que n'importe qui que j'ai vu. Une belle créativité, des bons pieds, rapidité de ses pieds. Je trouve qu'il y a des comparables avec Hudson de la façon que... J'ai vu Hudson son année de repêchage. Lui aussi avait des lacunes, avait des choses à améliorer. Xavier a eu des blessures cette année. C'était peut-être un peu plus difficile à revenir après avoir manqué 2 mois. Mais quand tu regardes l'ensemble des choses qu'il a accomplies dans les dernières années puis son niveau de talent, c'est quand même, pour moi, à mon avis, un talent première ronde. On va voir comment est-ce que les équipes vont réagir à tout ça. Parce qu'on le sait, des défenseurs à Boston City l'année passée, il n'y en a pas eu. On considère cette année que... Des Ryan Lynn, des Tommy Blair, des Xavier Villeneuve. Je pense que c'est des talents que tu ne peux pas négliger. Puis je pense qu'il faut les considérer en première ronde.
Tommy est 5 pieds 11 et 3 quarts.
Il arrive le 6 pieds.
Il va avoir des souliers très épais au niveau de la semelle. C'est toi qui le mesure ou qu'il va se faire mesurer?
Il se fait mesurer pour quelqu'un d'autre.
Officiellement, là, mais exact. C'est ça. Pour moi, il va être sur le bout des pieds un petit peu pour avoir le 6 pieds pour justement... C'est juste un chiffre, c'est juste quelques pouces, mais on dirait que des fois, dans l'esprit des
équipes... Des fois, mentalement, ça l'aide. Je pense qu'il y a des gènes assez grands dans sa famille, puis tu le regardes de l'air d'un jeune de 14-15 ans, tu sais, son visage, presque pas de barbe. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quand même un potentiel à grandir, un peu comme, tu sais, je parlais de Brock Faber tantôt. Je regardais ses chiffres au combine quand il est passé par le combine, c'est un 6 pieds, 6 pieds et demi. T'sais. Il est listé 6 pieds 1 tout de suite quand tu regardes le site web de la Ligue nationale, mais je pense qu'un Tommy Blair a une opportunité où il y a une chance dans les prochaines années d'atteindre ce 6 pieds et demi-là, ce 6 pieds 1. Ma compréhension que son père est quand même un 6 et 2. Fait qu'on verra ce qui va arriver dans les prochaines années. Puis on a She Love aussi à Victoriaville, un talent brut. Un sens du jeu exceptionnel, des bonnes mains, fabricant de jeu, qui va être très, très intéressant à suivre. Je l'ai souvent dit, je pense son niveau de talent, probablement top 10, top 5, même dans le repêchage, il apporte des éléments qui sont difficiles à trouver. Un peu comme tous les espoirs, il y a des choses à améliorer, mais il ne faut pas le négliger comme potentiel première ronde.
Vous rencontrez une, deux fois tout le monde ensemble?
À la mi-saison, à la fin de saison.
Quand vous faites vos listes et tout ça. Dans vos discussions, quand c'est le temps de nommer une, deux, quelques cartes cachées, tu sais, des gars que vous n'avez peut-être pas osé mettre trop haut.
Ou des gars que vous avez fait monter beaucoup.
Est-ce que tu as quelques exemples de joueurs qui vont peut-être surprendre puis être réclamés plutôt en première ronde?
Bien, c'est sûr que Liam Lefebvre est un nom qu'il faut apporter. Il a monté beaucoup dans nos listes. C'est un deuxième année éligible au repêchage, donc c'est quelqu'un qui aurait pu être repêché l'année passée, que les équipes n'ont pas considéré. Je pense que il jouait dans les prep schools américains, donc peut-être peu de visibilité. Profiter de la vitrine avec Rimouski en début d'année pour se faire un nom. Au début, je l'avais comme un C qui veut dire les rondes 4-5 à peu près. Là. Puis il a monté rapidement. Je l'ai monté comme un B assez rapidement parce que tu pouvais voir le potentiel. Son gabarit, 6 et 3, pouvait patiner, marquer au-dessus de 30 buts cette année en combinaison avec Rimouski, Chicoutimi. Apporte du papier sablé à son équipe, peut frapper, jeter les gants une couple de fois cette année, même si on n'a pas le droit de le faire dans LHJMQ. Il a trouvé une façon de se démarquer. Il l'a fait à la Coupe Memorial. Il l'avait fait une couple de fois dans la saison. Mais c'est quelqu'un qui pourrait atteindre facilement la deuxième ronde, puis peut-être même en fin de première ronde.
Peut-être hors du Québec,
je sais pas. Ouais, tu as Ryan Chudzinski à Moncton qu'il faut considérer. Quelqu'un, un marqueur de 20-22 buts avec Moncton, très peu d'avantages numériques, beaucoup de travail 5 contre 5, mais je te dirais que la raison qu'il va se faire repêcher, c'est surtout sa présence two-way, sa façon qu'il peut jouer dans les trois zones, puis son implication physique qu'il a apportée, je te dirais encore plus en deuxième moitié de saison. Puis dans les séries éliminatoires, était un duo avec Gabe Smith en série qui était très intéressant. Je pense qu'il devrait sortir quand même assez rapidement là, de la troisième, quatrième ronde.
Est-ce que c'est une cuvée de gardiens intéressante? On dirait qu'à chaque année, il y a tout le temps un candidat ou deux qui ressort du lot, puis qu'on parle peut-être d'une équipe qui a vraiment besoin d'un gardien d'avenir en première ronde. On dirait que cette année, les noms, on n'entend pas beaucoup parler des noms des gardiens qui sont au sommet de vos listes. Est-ce qu'il y a un potentiel gardien de première ronde qui se démarque?
Bien, je pense que oui. Sur notre liste nord-américaine, on a comme 4-5 là, avec des gabarits intéressants, des 6-4, 6-5, 6-6. Mais non seulement la grandeur, c'est des gardiens agiles, des bons compétiteurs. Il y en a un avec le programme américain. Son nom, c'est Noling.
Brady Noling.
Noling. Je l'ai vu à quelques reprises. J'ai lu les rapports de notre dépisteur de gardien de but, Al Jensen, qui a des choses excellentes à dire sur lui. Il compare à Ottinger un petit peu son style de jeu. Calme, très bien positionné, bonne mécanique, avec un potentiel intéressant. Orsula, qui jouait à Prince Albert. Puis qui a joué au championnat mondial junior aussi, qui est très intéressant. Lui aussi, c'est un deuxième année éligible, pas été repêché l'année passée. Gardien fluide, bonne mécanique, il attrape de l'autre main, ce qui rend les choses intéressantes aussi. Au Québec, on a Laris, on a Lasselle, deux gardiens intéressants à considérer. T'as Shaikov aussi à Gatineau, que je sais que les équipes ont démontré beaucoup d'intérêt dans lui. Un compétiteur, un gamer, comme qu'on appelle. Donc, il y a quand même une cuvée très intéressante côté gardien de but.
Mais peut-être juste en première ronde, sinon.
Première ronde, je te dirais peut-être Noling, peut-être fin de première ronde, je te dirais.
JF, un gros merci d'avoir été avec nous. Je suis sûr que les gens sont très reconnaissants. Ils vont être prêts pour le repêchage le 26, ici à Buffalo en plus. Hein? On vient à Buffalo dans quelques jours. Donc, un gros merci pour ta participation.
Excellent, ça me fait plaisir.
On poursuit l'émission. Sébastien, bien écoute, Jeff vient vraiment de mettre la table là, pour le repêchage. Vous connaissez maintenant qui sont les meilleurs espoirs et tout ça pour le prochain encamp. C'est le temps, toi puis moi, de débattre un peu, de parler des grandes ligues. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qui va retenir l'attention pour ce repêchage-là? Seb, Gavin McKenna, c'est un espoir qui est... Écoute, ça fait des années qu'on parle de lui. Il nous racontait un peu son histoire. Il a quitté la maison à 12 ans. C'est un joueur qui a tout à été hyper talentueux. Mais cette année, après une année de domination, joueur de l'année dans la LCH, fait le saut aux États-Unis. Comme Jeff a expliqué, ça n'a pas été parfait. Difficile début de saison. Par la suite, ça s'est amélioré. Est-ce que McKenna est vraiment le choix à prendre pour les Maple Leafs au premier rang dans une optique où c'est les Maple Leafs, c'est la pression de Toronto? C'est un gros défi pour McKenna, mais ça l'a peut-être préparé aussi cette année.
C'est un défi pour McKenna. C'est un défi. Être un premier choix au total d'un repêchage, c'est toujours un gros défi. C'est quand ça vient d'un marché comme Toronto, où, évidemment, la présence médiatique est bien importante, la pression peut-être en ce moment-ci de l'histoire des Maple Leafs est peut-être encore plus grande. Ouais. Cette équipe-là qui était vouée à plusieurs championnats, finalement, n'a jamais livré la marchandise. On est dans une période où cette équipe-là n'a pas le droit de se tromper.
Non, non, t'as 100% raison.
Et surtout que, bon, ils ont le premier choix, eu la chance de gagner la loterie.
C'est, tu gagnes la loterie, t'as des nouveaux dirigeants, Matt Sundin, John Shaker.
Pas ton choix de première ronde l'année prochaine et l'année suivante.
Tu peux pas tromper. Tu peux pas tromper.
Donc, est-ce que c'est le premier choix? Je pense que oui. Je pense que il a tellement été le joueur qui était, on a parlé d'un talent générationnel pendant longtemps. Ça fait des années qu'il est sous les projecteurs, donc peut-être déjà une longueur d'avance. On en a parlé rapidement avec GF, là, les gens ont commencé à accrocher peut-être sur le côté négatif de son jeu, alors que le positif est beaucoup plus important. Donc, oui, je pense que ça va être le premier choix, puis je pense qu'on est, on n'aura pas de débat.
Ben, ça ne sera pas un débat, mais j'en ai discuté avec Mark Leach, qui est le directeur du dépistage amateur pour les Maple Leafs, puis j'ai demandé... présentement cette saison, parce qu'il y avait beaucoup de pression, il se faisait critiquer, même quand tu regardes au championnat mondial junior, a été critiqué, même si quoi, une moyenne de 2 points par match. J'ai demandé, est-ce qu'on est en mode, j'ai juste le mot en anglais, là, tu vas me dire en français, nitpicking, tu sais, est-ce qu'on est en mode vraiment trop pointu, pointilleux, merci, sur l'évaluation de McKenna? Puis, il m'a dit, oui, il y en a beaucoup, c'est normal, quand tu vois un espoir aussi souvent que ça, à un moment donné, tu vois juste les côtés négatifs. Mais il dit, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait de bon, puis le reste, on peut lui enseigner. Est-ce que McKenna va devenir un attaquant de puissance? Non. Est-ce que McKenna va devenir un joueur qui fonce au filet, qui donne des mises en échec? Non. Mais c'est clairement le joueur le plus talentueux de cette QV-là.
Chez les Maple Leafs, je veux pas, on a eu une saison, en guillemets, catastrophique. On a trouvé là où il sort, même si la loterie les a aidés à aller chercher le premier choix. Mais on a perdu Mitch Marner, qui est une explication, qui est une des grandes explications de la descente des Maple Leafs au classement. Et on a la chance, en quelque sorte, parce que c'est pas des joueurs identiques, mais on a la chance de remplacer Mitch Marner gratuitement, entre guillemets. Donc, on vient peut-être colmater une brèche qui a été créée grâce à un coup de sort. La loterie vient de peut-être de sauver, en quelque sorte, les Maple Leafs plus rapidement qu'aurait pu penser. D'autres trous dans cette formation-là, mais McKenna vient remplir quelque chose qu'on a perdu il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
On s'en compte à quel point c'est.
Oui, puis McKenna, je disais, c'est le joueur le plus talentueux, c'est le talent le plus brut. Offensivement, c'est lui qui a le plus de chances d'exploser. On le compare. Dans les discussions, c'est Ivar Stenberg qui est celui que plusieurs considèrent comme le deuxième meilleur espoir. Il est premier sur la liste du bureau central au niveau des patineurs internationaux. Stenberg, c'est Alexander Barkov.
Qui joue à la...
Oui, mais c'est ça. Oui, très bon point. Mais c'est un joueur fiable, c'est un joueur qui va produire, c'est un joueur qui va peut-être devenir ton capitaine. On sait ce que Barkov est capable de faire, on sait à quel point il est important. Mais McKenna, tu recules le 2 ans, bon, c'était vu comme le prochain McDavid, le prochain Bédard, le prochain... Appelez-le. Soudainement, on a tout enlevé ça, mais il y a tellement de talent brut, tu peux pas le manquer. Puis c'est un Canadien. Hein, on le sait. Là, j'ai hâte de voir la pression du marché de Toronto. Est-ce qu'il va être bon? Ça, c'est une autre question. Ça serait, il y avait des rumeurs Patrick Roy. Ça serait ironique après Matthew Scherfer que Patrick Roy dirige un autre premier choix. On verra bien. Là, c'est loin d'être. C'est peut-être réglé là, au moment où vous écoutez le dossier. Mais oui, donc, ça va être McKenna. Je suis certain. Ma question maintenant. McKenna est repêché premier, se joint aux Maple Leafs dès l'an prochain. Est-ce que les Maple Leafs deviennent une équipe de série? Est-ce que c'est assez pour relancer les Maple Leafs puis les mettre dans la discussion pour une place en série?
Il n'est pas la seule. On ne peut pas placer sur les épaules de McKenna la responsabilité de ramener les Maple Leafs en série si on ne fait pas d'autres mots, un bon québécois. Il y a d'autres choses à régler devant des points d'interrogation. À la ligne bleue, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais bon, disons que c'est un bon pas dans la première direction. Qu'on n'a pas besoin de trouver une transaction, nos joueurs autonomes, ils arrivent sur un plateau. Là. Premier choix, personne ne se coûte rien, il est à nous, on ajoute à la formation. Mais est-ce que c'est suffisant dans la très compétitive section atlantique? À lui seul, il ne pourrait pas régler tous les problèmes, donc il faut faire attention.
Maintenant, tu regardes ce que Matthew Scherfer a fait cette année. Les Islanders n'étaient pas très loin à un certain moment donné de participer aux séries.
Oubliez que les Islanders n'étaient pas un peu comme les Paris, c'est une équipe qui était dans le bas du classement.
Mais c'est ça. T'as deux équipes qui ont repêché. Oui, elles n'auraient pas dû repêcher. Mais bon, on s'entend. Premier choix, Gavin McKenna. On poursuit. Écoute, les Maple Leafs ont gagné la loterie. Les Sharks ont terminé deuxième à la loterie.
le gagner le deuxième tirage. Eux aussi ont été avancés. C'est un peu ironique, là, mais ça fait que les Sharks se retrouvent dans une position où on va peut-être pas piger. On n'a peut-être pas besoin d'être deuxième pour piger le joueur qu'on a besoin. Il y a tellement d'espoir de qualité en attaque du côté de San Jose. Celebrini, Will Smith, Eklund, Michael Misa, deuxième choix l'année dernière. C'est des défenseurs qu'on a besoin chez les Sharks. On a dit que Stenberg était vraiment celui que les gens considèrent talent brut, talent le deuxième meilleur espoir, mais est-ce que tu te tournes vers quelqu'un d'autre si tu es les Sharks?
Le débat devient, est-ce que le deuxième meilleur espoir est vraiment Ivan Stenberg?
Mm.
En parlant à différentes personnes ici, on se rend compte qu'il y a un joueur comme Chase Reed qui est cassé deuxième derrière McKenna sur la liste des partenaires internationaux nord-américains et Albert Smith, deuxième derrière Ivan Stenberg sur la liste des partenaires internationaux, sont très, très, très bien vus par plusieurs défenseurs, plusieurs équipes. Donc, de dire que Stenberg est le deuxième meilleur joueur qui fait débat avec McKenna, c'est tout à fait, c'est fort possible, mais l'écart n'est peut-être pas si grand. Et là, quand on arrive au choix de San Jose qui ont peut-être besoin de plus d'un corps arrière, d'un défenseur numéro un que l'un autre attaquant, ça ouvre un monde d'options. Est-ce qu'on fait juste reculer de quelques rangs à comme tu dis, il y a tellement de bons défenseurs.
Mm-hmm.
Question d'en cibler un ou deux, puis qu'on se dit, hey, qu'on ait un ou l'autre, c'est pas grave si on pèse dans deux ou trois rangs et on a un actif de plus. Est-ce qu'on dit, non, ce joueur-là, on aurait peut-être même pris si on était premier, on va le prendre au deuxième rang. Des joueurs qu'on a vu, c'est très rare que les défenseurs comme Matthew Schaefer vont faire le saut tout de suite, mais On a parlé à des gens qui nous ont dit, non, Chase Reed, je serais pas si sûr.
C'est ça, là, ouais, c'est ça.
C'est lui-même, je te dis, ne serait pas contre l'idée de faire le saut dès l'an prochain. Il a la confiance en lui nécessaire pour faire le saut. Donc, il y aurait vraiment, on dit toujours, s'il n'était pas entre le besoin de l'organisation et le meilleur joueur disponible, peut-être que dans l'esprit des Sharks, c'est le même joueur. Là. C'est le meilleur joueur sur la liste et peut-être le joueur dont ils ont le plus besoin.
Seb, il y a un autre dossier qui a fait beaucoup parler ici à Buffalo. Caleb Malhotra, t'arrives à la séance d'évaluation des espoirs, t'es supposé d'être la vedette. Dès le premier jour, les Canucks annoncent que ton père Manny est nommé entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Les Canucks qui repêchent troisième. Malhotra est classé sixième au niveau des espoirs nord-américains, mais c'est pas une grosse cuvée au niveau des joueurs de centre. Lui et Tynan Lawrence sont pas mal les deux principaux. Dans le cas de Caleb, dans le cas des Canucks, t'oses-tu prendre... est-ce que t'oses prendre le fils de ton entraîneur? C'est une situation qui vient avec énormément de pression pour un entraîneur recru en plus, Manny Malhotra, qui, oui, présentement, sa carrière est vraiment en hausse au niveau du coaching, mais là, t'as te retrouvé à peut-être diriger ton fils dans une équipe où t'es un entraîneur recru, qui est en reconstruction, qui a planté du nez, qui a une nouvelle direction en plus avec les frères Sedin et Ryan Johnson. Oses-tu faire ce saut-là?
C'est que tous les entraîneurs sont embauchés pour être congédiés. Des fois, c'est plus long comme John Cooper.
Parfois, c'est court aussi.
de pas prendre un joueur parce qu'il va être dirigé par son père pendant quelques années, je pense pas que c'est un facteur auquel on doit s'attarder. C'est sûr et certain que ça vient avec beaucoup de pression. Tu as parlé de Manny Malhotra, mais c'est de la pression pour Caleb aussi.
Ouais.
Tu fais ton arrivée dans la Grande Ligue, puis tu es dirigé par ton père, qui est un conflit d'intérêt que ça peut dégager. Donc, c'est évidemment que c'est une position qui est primordiale pour toute équipe qui tente de se rebâtir. Le centre, les défenseurs. Donc, le débat devient long. Si on a dit que McKenna sortait premier et qu'on dit que les Sharks se tournent peut-être vers un défenseur, donc si on est les Canucks, si on veut le meilleur centre disponible, c'est peut-être Caleb Malhotra. Si on veut le meilleur défenseur, il y a une panoplie de choix. Est-ce que c'est Ivan Stenberg? Mais là, c'est un ailier, encore une fois. Donc, tout devient question d'évaluation des dépisteurs. Mais écoute, ça serait une des belles histoires du repêchage si jamais Caleb Malhotra était réuni à son père dès le 3 ans.
OK, mais tu le fais ou tu le fais pas?
écoute, je pense que si je constate que c'est le meilleur joueur sur ma liste, oui, je le fais sans hésiter, parce que le talent doit primer sur tout le reste. Si on pense que c'est le meilleur espoir et que cette position-là est importante pour moi, que c'est lui qui a joué à repêché, que ça va se passer son entraîneur ou non. Ça.
Malhotra, il a l'air d'avoir une bonne tête sur les épaules aussi. Tu sais, ça peut t'aider à naviguer à travers tout ça. Il a les qualités de son père. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque à Montréal.
Il parle français.
Il parle français. Sa grand-mère est originaire de Lévis au Québec. J'ai parlé un petit peu avec lui. Rapidement, j'ai demandé, est-ce que tu te débrouilles encore? Parce que Manny parle français. Est-ce que tu te débrouilles encore en français? Je le parle un peu, mais ce qui est intéressant, parce qu'il y en a d'autres aussi espoirs qui m'ont dit je le parle un peu, c'est que l'accent était quand même très bon, très québécois, puis il m'a dit non avec ma grand-mère. Mon français, l'accent est bon, ma connaissance est moins bonne.
Pour faire la parenthèse de tous les espoirs qui ont parlé quand même français dans nos entrevues cette semaine.
Il y en a quelques-uns, tu sais, Tynan Lawrence, Charlie Morrison, bon, du Nouveau-Brunswick.
Tim Rudolph parle français.
Oui, il y en a d'autres. J'ai rencontré, pour les gens qui nous écoutent en Suisse, Simas Ignatavictus. Ignatavictus, je veux pas... Oui, c'est ça, exactement, je l'ai débaptisé. J'ai rencontré, il parle quatre langues, dont le français. On a fait toute l'entrevue en français. Vous irez lire mon texte sur lnh.com à son sujet. Vraiment une saison intéressante. C'est un joueur qui est lituanien. C'est intéressant. Donc, regarde, ça parle un petit peu français, mais la majorité du temps, c'était toi, moi et JF qui ont parlé de ça. Imaginez que les Canucks choisissent Malhotra. Soudainement, tu as un Stenberg qui se retrouve disponible au quatrième rang. Est-ce que Connor Bedard a enfin trouvé son allié? Ou chez les Blackhawks, quand tu regardes tous les défenseurs qui sont disponibles encore, moi, je trouve que la ligne bleue des Blackhawks a peut-être plus besoin d'aide qu'en attaque, mais Connor Bedard a besoin d'aide aussi.
C'est une organisation où on a quand même, on a des Frank Nazar d'aller chercher Anton Frandell. Anton Frandell est supposé être un son. Frank Nazar a déjà eu une belle marque de confiance de la part de l'organisation des Blackhawks. Oliver Moore s'en vient. Est-ce qu'on a déjà dans l'eau ce qu'on pense être des bonnes options pour jouer avec Connor Bedard? Ou on dit, ben là, on a un cadeau du ciel, Ivar Stenberg est tombé jusqu'à nous, tout dépend de ce qui se passe devant nous. Ou, comme tu dis, on a déjà repêché Artyom Nevchunov jusqu'à maintenant. On savait que ça serait peut-être plus long, c'est un joueur complet qui n'est pas un spécialiste en avantage numérique, quoi que ce soit, c'est un joueur qui faisait tout bien. Donc, peut-être avoir besoin d'un peu de temps et peut-être un peu d'aide. Et là, ce qu'il y a, c'est un Albert Smith, qui est un joueur qui pourrait même aider très prochainement l'équipe parce qu'il est très près de pouvoir jouer dans la Ligue nationale, devient une option qui est attirante. Est-ce qu'on est capable de dire, ah non, on va se passer d'un talent qui était potentiellement assez bon pour être repêché au tout premier rang, puis on va le laisser passer au quatrième rang? Est-ce que quel duo dynamique que ça pourrait faire, Connor Bedard et Ivar Stenberg? J'ai de la difficulté à voir Stenberg glisser plus loin que le quatrième rang. Donc, c'est un... Je pense que chez les Blackhawks, on regarde là, comment l'allure du pêcheur va aller, puis on... Peut-être que la décision va déjà avoir été prise pour eux, mais si c'est eux qui doivent la prendre, ça va être intéressant de voir.
Parce que Stenberg, quand on lui a parlé, sans prêt pour la Ligue nationale de hockey, puis ses performances au championnat mondial... démontre qu'il est capable déjà d'évoluer avec les hommes. Il l'a fait dans la SHL aussi l'année dernière. Il a connu une saison spectaculaire. Donc, dans son cas, c'est probablement un joueur, même repêché 4, peu importe, pourrait se retrouver dans la Ligue nationale dès l'an prochain.
Une équipe qui a son moiteur sur la première ronde, c'est les Blues de Saint-Louis. Trois choix de première ronde, les 11e, 15e et 29e sélection. C'est une position intéressante peut-être pour viser les clôtures. C'est-à-dire, au pire, on aura un retrait sur des prises, mais quand tu as trois choix de première ronde, tu ne vises peut-être pas de faire 3-5. Tu te dis, si j'ai un trip ou un circuit là-dedans, même si je me fais passer dans une tête une fois, mais que j'ai deux doubles ou un trip, un circuit, je vais avoir passé une belle journée. Qui sont les possibles coups de circuit qui une équipe qui a plusieurs choix pour rester à mettre devant?
Bien, écoute, c'est toi qui l'as rencontré, là, tu vas pouvoir nous dire. Wyatt Cullen est un profil très intéressant. Tu sais, on est ici, là, il y a des joueurs qui ont commencé, quand ont commencé à entrer dans le processus de dépistage justement du bureau central, mesuraient 5 pieds 6.
Oui, c'était 5 pieds 5 et 120 lignes environ.
OK, à 16 ans. Donc, c'est un joueur qui, là, il est à...
Il est 160.
OK, c'est plus le même joueur en l'espace d'une année. Puis justement, ça vient avec des défis, tout ça, mais offensivement, Il a prouvé des super bonnes choses. Il est dans le programme américain là, de développement. C'est le gars de Matt Cullen. Tu as la lignée familiale. Matt Cullen qui a eu une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Wyatt Cullen pourrait être un choix intéressant. Bon, tu l'as dit, 11, 15 et 29e, c'est où tu veux prendre ton coup de circuit, où tu veux tenter le grand coup. C'est ça la question. Mais Wyatt Cullen, quand tu y parles, vois-tu justement cette possibilité-là?
C'est que ça peut donner le coup de circuit, même si, bon, 11, 15, c'est pas mal là où on le voit sortir, mais pourrait devenir un vol où on
voit.
Voilà. Dans le sens où, quand tu grandis, tu es un joueur de 5 pieds 5 pouces, 120 livres, tu joues d'une certaine façon, tu développes certaines habiletés qui te permettent de te marquer quand tu ne peux pas battre les autres joueurs avec ton gabarit, avec ton coup de patin. Ces habiletés-là ne se perdent pas, doivent être adaptées quand le corps pousse d'une façon démesurée. Quand on parle de 8-9 pouces en un an et demi,
c'est un sous-marin, là.
Mais c'est ça, mais ces habiletés-là de petits joueurs qui se transforment ou qui se transposent dans un corps de joueur de la Ligue nationale, ça fait un joueur qui est intriguant, très intriguant. En anglais, il y a growing pains comme expression.
Mm-hmm.
Lui, c'est vraiment adapté à sa situation parce que c'est en grandissant, son corps a eu de la difficulté à suivre, donc il y a eu beaucoup de blessures au niveau tendons, muscles. Donc, il a été ralenti dans son année de repêchage parce que son corps grandissait tellement vite qu'il a eu à l'écouter un petit peu. Et quand il est revenu au jeu, a rapidement pris le dessus, puis au niveau du championnat 18, était probablement le meilleur joueur sur la glace. Puis lui, il dit lui-même, son entraîneur Nick Ford, la même chose. Si la saison s'est prolongée 2 ou 3 mois, là, je pense que j'aurais pu démontrer à quel point j'allais pas être encore meilleur. S'il est encore meilleur que ce qu'il est là, un comparatif, un Jack Hughes, un joueur qui a une vision exceptionnelle, des mains exceptionnelles, et le bénéfice peut-être d'avoir beaucoup de temps libre parce qu'on est blessé au bas du corps, c'est que je peux quand même faire quelque chose avec le haut du corps. Il a tiré un nombre incalculable de rondelles pour améliorer son tir. Donc, un joueur qui pourrait se révéler à être la carte cachée, qu'on regarde, mais on fait un repêchage stimulé dans 15 ans, c'est voir que ce gars-là a été choisi à l'extérieur du top 10. Donc, c'est peut-être ce type de joueur-là qu'on pourrait avoir chez...
Un Pasternak. C'est pas le même profil, là, mais je veux dire, il y a des raisons parfois pourquoi un joueur connaît... Xavier Villeneuve peut être une autre possibilité là-dessus, dans le sens que les blessures, tout ça, ça dépend comment tu évalues le joueur. Ça dépend, est-ce que tu considères... Puis, tu sais, genre, Jeff en a parlé, là, c'est que ça dépend comment tu évalues le joueur, parce qu'il y en a qui ont perdu qui vont reculer au repêchage, mais à quel point tu es prêt à le laisser reculer. Shilov, c'est un peu un autre espoir comme ça. En terminant, Seb, les Canadiens de Montréal, on n'a pas repêché l'année dernière. On avait 2 choix de première ronde, puis finalement, ils ont disparu. Ça aura donné Noah Dobson, qui aura été utile pour le parcours en séries éliminatoires. C'est quoi les besoins chez les Canadiens? Parce que là, on pêche 28e avec le parcours en séries éliminatoires qu'on a eu. Premièrement, est-ce que les Canadiens vont repêcher? Parce qu'on connaît le plan. On sait où on est rendu dans la reconstruction du tricolore. Ce premier choix-là, tu t'en sers, tu vas chercher de la profondeur chez tes espoirs, tu l'échanges. Où tu vises présentement?
Toutes les options vont être sur la table. Ça fait combien d'années que les Canadiens ont une part importante de la trame narrative du repêcheur depuis, bon, disons, David Reinbacher, Yair Pavkowski. On a fait la transaction de Dobson. On a toujours été des joueurs importants dans les derniers repêchages parce que, bon, on a amorcé une reconstruction de façon annoncée, affirmée. Là, cette reconstruction-là, c'est à sa fin. On a une équipe qui est la plus jeune de la Ligue nationale. On a des espoirs comme Michael Hitch, comme Zast, comme Bryce Pickford. Jacob Fowler est encore un espoir. Je pense que les options...
Demidov, t'as même pas parlé de Demidov.
Le noyau de l'équipe, Lane Hudson,
tous des joueurs que la barbe pousse pas encore complètement.
on est dans une situation où... Si la bonne offre, si le bon scénario s'offre à nous, effectivement, on n'a pas besoin. Puis là, de toute façon, on n'est pas dans une situation où un Juraj Slafkovský est repêché et l'année d'après vient.
Non, pas du tout.
Et l'équipe. Un joueur qui est repêché 28e, de toute façon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une aidé l'équipe avant 2, 3, 4 ans, 5 ans. Donc, est-ce que, tu sais, je me souviens, Mathieu Darche nous a dit l'année dernière, quand on avait rencontré lors de son embauche, un choix de pêchage, il avait pris ça de Julien Brisebois à Tampa Bay. Un choix de pêchage, c'est une façon d'accueillir un joueur. Je peux le repêcher, ce joueur-là, ou je peux l'échanger contre un joueur qui va m'aider maintenant. Mais ce choix-là va me servir à acquérir mon joueur. Est-ce que la situation actuelle des Canadiens, ce choix-là serait mieux investi dans une transaction qui leur donnerait un choix, un joueur qui les aiderait à plus court terme, maintenant que la fenêtre semble s'ouvrir? Kensio?
Ça va être, c'est sûr que c'est dans les discussions.
Kensio, vous en avez laissé entendre à la date limite des transactions qui travaillaient sur l'édition d'un joueur qui s'inscrivait dans le plan, qui faisait du sens pour l'organisation. Donc, est-ce que ce choix-là de première ronde, qui, grâce au parcours des Canadiens, s'est transformé quand même en un choix de fin de première ronde? Donc,
c'est pratiquement un choix de deuxième ronde. Puis quand tu regardes les probabilités de succès à ce moment-là, c'est sûr que ça a moins de valeur que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est évident.
Vos équipes de dépistage, hein? Si...
Non, mais ça a moins de valeur dans le sens les probabilités de réussite d'aller chercher un joueur solide avec National de hockey. Mais... les Canadiens ont une coupe de coups de circuit en deuxième ronde dans les dernières années, puis tout ça. Puis là, on a encore beaucoup de choix. Donc, comme tu dis, je pense pas que le tricolore est en position présentement pour dire on doit absolument repêcher. Puis tu as nommé des noms, les Arlovski, les Michael Age, qui pourraient être jumelés avec tout ça dans une transaction. Des espoirs, il y en a plusieurs là, qui peuvent être jumelés. Ça va être, j'ai l'impression que les Canadiens vont être encore une équipe occupée à surveiller durant le repêchage.
Peut-être que l'équipe de dépisteurs a rencontré un espoir cette semaine à Buffalo et arrive au 28e rang. Ils vont nous le dire de toute façon, quand ils vont rencontrer les médias après, on ne peut pas croire qu'ils étaient encore là.
C'est ça. On l'avait beaucoup plus haut sur notre liste. Puis...
mais peut-être que là, le joueur, peut-être qu'ils ont un joueur qui est peut-être 11, 12, 13 sur leur liste. S'il est toujours là au 28e rang, bien, à ce moment-là, on va se faire un plaisir de le sélectionner.
Si on a encore le choix. C'est ça la réalité. Là. C'est ça la réalité. On verra bien. Seb, écoute, on met un terme à l'émission là-dessus. Comme je dis, si vous voulez vraiment en apprendre plus avec le repêchage, nos textes qu'on a faits, tous les espoirs qu'on a rencontrés, tout ça, allez au lnh.com. On a une section repêchage vraiment avec tous les profils des joueurs, les repêchages simulés. Nos experts, Mike Morreale et Adam Kimmelman, avec qui on a travaillé cette semaine, qui... eux, vraiment, vous font des repêchages simulés, sont bons, sont fun. On a eu du plaisir avec eux cette semaine ici à Buffalo. Mais c'est ça, allez voir tout ça. Manquez pas ça, vraiment. Repêchage, comme je disais, 26-27 juin ici à Buffalo. Donc, ça va être encore une fois un grand événement. Seb, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.